Chapitre 8. Dialogue entre Miss Bridget et Mrs. Deborah, plus amusant, mais moins instructif que le précédent. Aussitôt que M. Allworthy se fut retiré dans son cabinet avec Jenny Jones, comme on vient de le voir, Miss Bridget et la femme de charge allèrent se poster dans une chambre attenante, d'où, à travers le trou de la serrure, elles firent leur profit du discours instructif prononcé par M. Allworthy, ainsi que des réponses de Jenny, et de toutes les autres particularités que j'ai exposées dans le dernier chapitre. Miss Bridget connaissait aussi parfaitement cette petite ouverture que lui présentait la porte du cabinet de son frère, et en faisait usage aussi fréquemment que Thisbé de la célèbre ouverture de la muraille qui la séparait de son cher Pyram. Dans toutes les occasions importantes, Miss Bridget ne manquait pas de s'en servir. Ce moyen lui procurait souvent l'avantage de connaître les volontés de son frère, sans lui donner la peine de les lui exprimer. Il est vrai que cette communication n'avait pas toujours été sans inconvénient pour elle, et qu'elle avait eu quelquefois raison de s'écrier avec Thisbé dans Shakespeare « Oh, malheureuse, malheureuse muraille !» Car M. Allworthy étant juge de paix, certains détails que nécessitaient les informations concernant les bâtards ou telles autres parties de sa juridiction étaient assez propres à offenser grièvement les chastes oreilles des filles, surtout quand elles approchent de l'âge de 40 ans, ce qui était le cas de Miss Bridget. Mais elle avait dans ces sortes d'occasions l'avantage de cacher sa rougeur aux yeux des hommes, et personne n'ignore le principe de droit des non apparentibus et non existentibus et adem est ratio. C'est-à-dire, quand on ne voit pas une femme rougir, elle ne rougit point. Ces deux excellentes femmes gardèrent un silence imperturbable pendant toute la scène qui eut lieu entre M. Allworthy et la jeune fille. Mais aussitôt qu'elle fut terminée, et qu'il ne fut plus possible au vieux gentilhomme de les entendre, Mrs. Deborah ne put s'empêcher de s'irriter de la clémence de son maître et de s'indigner de ce qu'il souffrait que Jenny lui cachât le père de l'enfant, jurant qu'elle lui aurait arraché son secret avant le coucher du soleil. À ces mots, Miss Bridget laissa échapper un sourire, chose qui ne lui était pas ordinaire. Non que je veuille donner à penser à mon lecteur que ce fut un de ces sourires voluptueux qu'Homère place sur les lèvres de Vénus, toutes les fois qu'il la nomme la déesse qui aime le rire. Ce n'était pas non plus un de ces sourires dont Lady Serafina charme une brillante assemblée du haut de sa loge à l'opéra, et dont Vénus elle-même voudrait posséder les grâces au prix de son immortalité. Non, c'était un de ces sourires que l'on placerait plus convenablement sur les joues creuses de l'auguste Tisiphone ou de l'une des mademoiselles ses sœurs. Ce fut avec un sourire de cette dernière espèce, et avec une voix aussi douce que le souffle de Borée dans une des soirées de l'agréable mois de novembre, que Miss Bridget désapprouva gracieusement la curiosité de Mrs. Deborah, vice dont la dernière semblait trop entachée, et contre lequel la première s'emporta avec la plus grande amertume, ajoutant que parmi tous ses défauts, elle remerciait le ciel de ce que ses ennemis ne pouvaient lui reprocher de s'immiscer dans les affaires des autres. Elle continua ensuite à faire l'éloge de l'esprit et de l'honnêteté avec lesquels Jenny s'était conduite. Elle dit qu'elle ne pouvait s'empêcher de convenir avec son frère qu'il y avait quelque mérite dans la sincérité de sa confession et dans sa fidélité envers son amant, qu'elle l'avait toujours regardée comme une fille sage et ne doutait pas qu'elle n'eût été séduite par quelque misérable qu'il fallait blâmer infiniment plus qu'elle, et qui probablement en aurait triomphé par une promesse de mariage ou par quelque autre moyen aussi perfide. Cette conduite de Miss Bridget surprit grandement Mrs. Deborah, car cette femme rusée n'ouvrait jamais la bouche, soit devant son maître, soit devant sa maîtresse, avant d'avoir sondé leurs dispositions, avec lesquelles ses sentiments se trouvaient toujours parfaitement d'accord. Mais en cette circonstance, elle avait pensé qu'elle pourrait sans danger s'écarter de sa réserve ordinaire. J'espère que le lecteur pénétrant ne l'accusera pas de manquer de prévoyance en agissant ainsi, mais admirera plutôt avec quelle prodigieuse célérité elle retourna sur ses pas dès qu'elle perçut qu'elle s'était engagée dans un mauvais chemin. « Avec votre permission, madame, dit cette femme adroite et vraiment grande politique, je dois avouer que je ne puis m'empêcher d'admirer, autant que madame, l'esprit de cette jeune fille. Et comme le dit madame, si la pauvre malheureuse a été trompée par quelque scélérat, c'est elle qu'il faut plaindre. Et certainement, comme le dit madame, la jeune fille a toujours été reconnue pour une bonne et honnête fille, et nullement fière de sa figure, comme le sont quelques malheureuses abandonnées du voisinage. « Vous dites vrai, Déborah, » dit Miss Bridget. « Si la jeune fille eût été une de ces malheureuses, dont nous avons un trop grand nombre dans la paroisse, j'aurais condamné la douceur de mon frère envers elle. Je vis l'autre jour à l'église deux filles de fermiers qui avaient la gorge toute découverte. Je proteste qu'elles me choquèrent infiniment. Si ces étourdies tendent des pièges aux hommes, peu importe les malheurs qu'elles s'attirent à elles-mêmes. Je déteste de semblables créatures. Il aurait mieux valu pour elles qu'elles eussent été défigurées par la petite vérole. Mais je dois avouer que je n'ai jamais rien vu qui approchât de cette conduite scandaleuse dans la pauvre Jenny. Elle a été, j'en suis convaincu, trahie, peut-être même violée par quelque artificieux scélérat. Et je plains la pauvre malheureuse de tout mon cœur. » Mrs. Déborah applaudit à tous ses sentiments, et elles terminèrent ce dialogue par dire d'un commun accord et avec amertume tout le mal possible de la beauté, non cependant sans avoir charitablement exprimé la compassion la plus tendre pour de jeunes filles aussi honnêtes que simples qui se laissent séduire par les artifices des hommes. Chapitre 9. Contenant des choses qui surprendront le lecteur. Jenny retourna chez elle, satisfaite de la réception de M. Allworthy, dont elle publia adroitement l'indulgence, autant peut-être par orgueil que comme le moyen le plus propre à la réconcilier avec ses voisines et à imposer silence à leurs clameurs. Mais quoique ce dernier dessein, en le lui supposant, pût paraître assez raisonnable, l'événement ne répondit pas à son attente, car lorsqu'elle fut conduite devant le juge de paix, et tant qu'on craignit qu'elle ne fût destinée à la maison de correction, il y avait un assez grand nombre de jeunes femmes qui commençaient à avoir pitié de sa situation, quoique quelques-unes s'écriassent encore que c'était assez bon pour elle, et se fissent d'avance un plaisir de la pensée qu'elle briserait du chanvre avec une robe de soie. Mais quand on sut de quelle manière M. Allworthy s'était conduit à son égard, la chance retourna contre elle. « Madame a du bonheur, je vous assure, » s'écriait l'une. « Voilà ce que c'est que d'être la favorite, » disait une seconde. « C'est sa science qui en est la cause, » disait une troisième. Chacune faisait ainsi, à sa façon, quelques malins commentaires sur ce sujet et des réflexions plus ou moins amères sur la partialité du juge. Le lecteur, qui connaît le pouvoir et la bienfaisance de M. Allworthy, pourra juger la conduite de ces gens aussi ingrate qu'impolitique. Mais quant à son pouvoir, M. Allworthy ne s'en servait jamais contre eux, et il était si prodigue de sa bienfaisance que par cela même il désobligeait presque tous ses voisins. Car c'est un secret bien connu de tous ceux qui lui ressemblent, qu'en accordant un bienfait, non seulement on ne se procure pas un ami, mais que l'on est encore certain de se faire un grand nombre d'ennemis. Cependant, par les soins et la bonté de M. Allworthy, Jenny fut bientôt éloignée et mise à l'abri des reproches. La méchanceté ne pouvant plus alors exercer sa rage sur elle, commença à se jeter sur un autre objet. Et sur qui ? Sur M. Allworthy lui-même, car il courut bientôt un bruit sourd qu'il était le père de l'enfant trouvé. Cette supposition, qui paraissait expliquer sa conduite, fut universellement adoptée. Le cri public que sa douceur avait excité commença bientôt à prendre un autre ton et se changea en invective contre sa cruauté envers cette pauvre fille. Les femmes les plus graves et les moins médisantes déclamaient contre les hommes qui désavouaient les enfants dont ils étaient les pères. Il y en eut même quelques-unes qui, après le départ de Jenny, insinuèrent qu'on l'avait enlevée avec des dessins trop noirs pour oser les dire, et qui donnaient à entendre qu'il fallait faire une recherche légale dans toute cette affaire et forcer certaines personnes à représenter la jeune fille. Ces calomnies auraient eu probablement de fâcheuses conséquences. Elles auraient au moins occasionné quelque inquiétude à un homme d'un caractère moins ferme et plus méfiant que M. Allworthy. Mais elles ne produisirent aucun de ces effets. Il les méprisa complètement et elles ne servirent qu'à contribuer à l'innocent amusement des commères du voisinage. Comme nous n'avons pas le don de deviner de quel caractère peut être notre lecteur, et comme il sera quelque temps sans entendre parler de Jenny, nous croyons nécessaire de lui confier le plus tôt possible que M. Allworthy était et paraîtra par la suite innocent de toute intention criminelle. Il ne commit réellement qu'une faute en politique, celle de tempérer la justice par la pitié, et de ne pas consentir à satisfaire les dispositions bienveillantes de la populace en livrant à sa compassion la pauvre Jenny, que, pour avoir occasion de la plaindre, on aurait bien désiré voir ruinée et condamnée à l'infamie par un petit séjour dans la prison de Bridewell. Loin de céder à leurs désirs, ce qui aurait anéanti pour la pauvre Jenny tout espoir de réforme, et lui aurait même fermé la route de la vertu si ses propres inclinations devaient un jour la porter à y rentrer, M. Allworthy aime à mieux l'y encourager par les seuls moyens qui lui restaient encore. Car il est malheureusement trop vrai que beaucoup de femmes sont devenues tout à fait abandonnées et se sont précipitées dans l'abîme du vice par l'impossibilité de revenir sur leurs premières erreurs. Ce qu'elles ne pourront jamais, je le crains bien, tant qu'elles demeureront au milieu des témoins de leurs fautes. M. Allworthy fit donc très sagement d'envoyer Jenny dans un lieu où elle put jouir encore de l'avantage d'une bonne réputation, après avoir éprouvé les malheureuses conséquences de l'avoir perdue. C'est pourquoi, en quelque lieu qu'elle aille, nous lui souhaitons un bon voyage et prenons pour le moment congé d'elle et du petit enfant trouvé, son fils, ayant des sujets d'une beaucoup plus haute importance à communiquer au lecteur. Chapitre 10. Hospitalité de M. Allworthy. Légère esquisse du caractère de deux frères, l'un docteur et l'autre capitaine. Le château et le cœur de M. Allworthy n'étaient fermés pour personne, mais l'un et l'autre étaient plus particulièrement ouverts aux hommes de mérite. À dire vrai, c'était peut-être la seule maison du royaume où l'on fût certain d'obtenir un dîner en le méritant. Les hommes de génie étaient surtout distingués par lui, et en cela, il montrait beaucoup de discernement. Il n'avait pas eu l'avantage d'une éducation brillante. Mais comme il avait beaucoup d'esprit naturel, il s'était appliqué avec tant d'ardeur, quoiqu'un peu tard, à l'étude des belles lettres, et il avait si bien profité de la conversation habituelle des hommes les plus instruits, qu'il était devenu lui-même un très bon juge dans tous les genres de littérature. Il n'est pas étonnant que dans un siècle où ce genre de mérite est si peu estimé et si peu profitable, ceux qui le possédaient se rendissent en foule avec empressement dans un lieu où ils étaient sûrs d'être reçus avec de grands égards et où ils pouvaient jouir de presque tous les avantages d'une grande fortune comme s'ils l'eussent possédé eux-mêmes. Car M. Allworthy n'était point un de ces hommes généreux qui sont toujours prêts à donner, avec une extrême bonté, la table et le logement aux hommes d'esprit et aux savants, à la charge par eux de ne leur rendre en échange que du plaisir, de l'instruction, de la flatterie, de la servitude. En un mot, de s'enrôler au nombre de leurs domestiques, sans cependant porter la livrée, ni recevoir de gages. Chacun chez lui, au contraire, était parfaitement maître de son temps, et pouvait à son gré satisfaire ses désirs dans tout ce qui n'était pas défendu par la loi, la vertu et la religion. Il pouvait de même, si sa santé l'exigeait, ou simplement si son inclination à la tempérance ou même à l'abstinence l'y portait, se dispenser d'assister au repas ou s'en retirer quand cela lui convenait, sans être le moins du monde sollicité d'en agir autrement. Car il faut convenir que de telles sollicitations de la part des supérieurs ressemblent beaucoup à des ordres. Mais tous les hôtes de M. Allworthy étaient à l'abri de pareilles impertinences. Non seulement ceux dont l'égalité de fortune fait considérer partout la compagnie comme une faveur, mais encore ceux à qui l'indigence rend une telle hospitalité nécessaire, et qui sont d'autant moins bien reçus à la table des grands qu'ils ont un plus pressant besoin de l'être. Au nombre de ces derniers était le docteur Blifil, homme qui eut le malheur de perdre tous les avantages d'un grand mérite par l'obstination d'un père qui le destinait à une profession qu'il détestait. Par obéissance, le docteur avait été obligé, dans sa jeunesse, d'étudier la médecine, ou plutôt de dire qu'il l'étudiait. Car, dans le fait, les livres qui traitaient de cette science étaient presque les seuls qu'il n'eût pas lus. Et malheureusement pour lui, il possédait presque toutes les autres, à l'exception de celles qui devaient le faire subsister. La conséquence de tout ceci fut qu'à l'âge de 40 ans, le docteur n'avait pas de pain. Un homme comme le docteur Blifil était sûr d'être bienvenu à la table de M. Allworthy, auprès duquel les malheurs étaient toujours une recommandation quand ils provenaient de la folie ou de la méchanceté des autres, et non de la faute du malheureux lui-même. Outre ce mérite négatif, le docteur avait auprès de lui une recommandation positive, c'était une grande apparence de religion. Qu'elle fût réelle ou qu'il n'en eût que l'extérieur, c'est ce que je n'ai point assez de présomption pour affirmer. Ne possédant aucune pierre de touche, avec laquelle je puisse distinguer la fausse de la véritable. Si cette partie de son caractère plaisait à M. Allworthy, elle enchantait Miss Bridget, qui engageait souvent le docteur dans un grand nombre de controverses religieuses. Elle ne manquait jamais alors de lui exprimer une grande satisfaction des connaissances qu'il possédait, et ne paraissait pas insensible aux compliments qu'il lui faisait sur les siennes. Dans le fait, elle avait lu beaucoup de livres de théologie et avait embarrassé plus d'un ministre des environs. D'ailleurs, sa conversation était si pure, ses regards si sages, tout son ensemble si grave et si solennel, qu'elle paraissait mériter le nom de sainte autant que son propre nom, ou qu'aucune autre femme honorée de ce titre dans le calendrier romain. Les sympathies de toute espèce sont propres à faire naître l'amour. Aussi l'expérience nous apprend-elle qu'aucune ne va plus directement à ce but que la sympathie religieuse entre des personnes d'un sexe différent. Le docteur, s'apercevant qu'il plaisait à Miss Bridget, ne tarda pas à déplorer le malheureux accident qui lui était arrivé environ 10 ans auparavant. Non seulement il était marié avec une autre femme qui vivait encore, mais ce qu'il y avait de pis, c'est que son mariage était connu de M. Allworthy. Tel était l'obstacle fatal qui s'opposait au bonheur qu'il voyait une assez grande probabilité d'obtenir en épousant cette jeune dame. Car il n'avait jamais eu la moindre idée de la séduire. Il devait ses sentiments soit à sa religion, ce qui était très vraisemblable, soit à la pureté de sa passion, qui avait en vue ce à quoi le mariage seul pouvait le faire parvenir ou lui donner quelque droit. Il rêvait encore à cette malheureuse difficulté lorsqu'il se souvint qu'il avait un frère pour lequel elle n'existait pas. Il ne doutait point que ce frère ne réussît auprès de Miss Bridget, car il croyait avoir discerné dans cette dame une inclination pour le mariage. Et le lecteur ne blâmera point la confiance du docteur quand il connaîtra les qualités de ce frère. Il avait environ 35 ans, était d'une taille moyenne et ce qu'on appelle bien bâti. Il avait au front une cicatrice qui nuisait moins à sa beauté qu'elle ne dénotait sa valeur, car il était officier. Il avait de belles dents, et quand il le voulait, quelque chose d'affable dans son sourire. Quoiqu'il eût beaucoup de rudesse dans son air et dans son langage, il pouvait quelquefois s'en défaire et montrer toutes les apparences de la douceur et de la gaieté. Il n'était ni grossier ni entièrement dépourvu d'esprit, et avait été connu dans sa jeunesse par 1000 petites saillies qui lui faisaient encore honneur quelquefois, quoiqu'il eût adopté un caractère plus sérieux depuis quelque temps. Il avait aussi bien que son frère fait ses études à l'université, car son père, usant de la même autorité envers ses deux enfants, l'avait destiné à entrer dans les ordres. Mais le vieux gentilhomme étant mort avant qu'il les eût reçus, il renonça à la milice ecclésiastique et aima mieux être breveté par le roi qu'ordonné par un évêque. Il fut d'abord lieutenant de dragons et monta peu de temps après au grade de capitaine. Mais, ayant eu une dispute avec son colonel, il fut obligé de se défaire de sa compagnie. Depuis ce temps, il s'était retiré à la campagne, où il vivait comme un bon paysan, s'appliquait à lire les Saintes Écritures, et était quelque peu suspect de pencher vers le méthodisme. Il ne devait donc pas paraître invraisemblable qu'un tel homme pût réussir auprès d'une dame qui avait d'aussi saintes dispositions, et dont les inclinations n'avaient pour but que l'état du mariage en général. Mais il n'est pas si aisé d'expliquer comment le docteur, qui certainement n'avait pas beaucoup d'amitié pour son frère, put se résoudre, pour l'amour de lui, à payer d'un si mauvais procédé l'hospitalité de M. Allworthy. C'est qu'il est certaine nature qui se plaisent dans le vice, comme d'autres dans la vertu. C'est qu'il faut que ce soit un plaisir d'être complice d'un vol qu'on ne peut commettre soi-même. Ou enfin, ce que l'expérience rend probable, c'est que l'on éprouve sans doute une vive satisfaction dans l'élévation de sa famille, quelque peu d'amour ou de respect qu'on ait d'ailleurs pour elle. Je ne déciderai point si aucun de ces motifs influa sur le projet du docteur. Je me contente de dire le fait. Il fit avertir son frère et trouva le moyen de l'introduire chez M. Allworthy comme quelqu'un qui avait le dessein de lui faire à lui-même une petite visite en passant. Le capitaine n'avait pas demeuré 8 jours au château que le docteur eut raison de se féliciter de son discernement. Car il faut convenir que le premier était un aussi grand maître dans l'art d'aimer que feu Ovid lui-même. D'ailleurs, il avait reçu de son frère des instructions convenables aux circonstances, et il sut en tirer un bon parti.